应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile déborde des images débridées dont est fait le dernier film d'Alejandro Jodorowsky, Poesía sin fin. Et ce sont les yeux et les voix de Nicolas, Aurore et Hugo qui sont à mes côtés aujourd'hui. Bonjour à tous les trois.
Bonjour,
bonjour
Rémi.
Bonjour.
Poesía sin fin est le second volet d'un triptyque autobiographique entrepris il y a quelques années par le fringant octogénaire chilien Alejandro Jodorowsky, poète, réalisateur, metteur en scène, scénariste de BD, maître du tarot divinatoire, romancier, essayiste et mime de son état. Jodorowsky retrace ici la fin de son enfance, la naissance de sa vocation de poète contre la vie de sa famille, puis sa fuite du foyer natal et ses premières années de création illimitée, gargantuesque et explosive. Il fait alors la rencontre d'une troupe d'artistes, pour le moins étonnant, d'une muse dominatrice dont il finira aussi par se séparer, d'un ami poète comme lui, avant de finir par partir pour l'Europe, contraint par la situation politique au Chili. Mais plus qu'une autobiographie, c'est une autofiction, jusqu'à l'autofantasme si j'ose dire, car le réalisateur recrée sa jeunesse, la modèle, la peint, comme un matériau plastique dont serait fait son film. Voilà, j'en dis pas plus, je me tourne vers vous Nicolas, Aurore, Hugo, pour connaître votre avis sur ce film.
Alors bon, moi j'ai beaucoup aimé le film. Jodorowsky, c'est quelqu'un que je connaissais un peu, pas au point de connaître à l'avance toute son autobiographie, et j'ai vraiment beaucoup aimé le film.
Pareil, j'ai beaucoup aimé le film. Pour moi, ça a été une vraie expérience visuelle. Avant tout, je connaissais absolument rien de Jodorowsky avant d'aller voir ce film. Juste que c'était une adaptation de son autobiographie et bon, c'est totalement surréaliste.
Alors pendant le film, je savais pas du tout de ce que j'en pensais, et finalement en sortant et les souvenirs que j'en ai, j'en garde plutôt de bons souvenirs.
Mm-hmm. Et toi Rémi? Ouais.
Eh bien moi j'ai beaucoup aimé. Alors on en a déjà discuté en sortant de la salle, mais c'est vrai que c'est un film d'une liberté plastique assez rare de nos jours au cinéma. Vraiment, Jodorowsky joue avec toutes les scènes du film, et c'est vraiment un moment très très intéressant au moins à passer. Ça peut paraître surprenant au début, mais une fois qu'on rentre dans le truc, c'est vraiment extrêmement passionnant à quel point chaque plan, chaque séquence est une espèce d'œuvre d'art à part entière. Et la composition de chaque partie de ce film, quitte à verser dans l'incohérence d'un point de vue plus global, est vraiment quelque chose qui porte le spectateur.
Alors moi justement par rapport à cette incohérence, justement donc t'as raison de dire que c'est un film très surréaliste, parce que voilà, le surréalisme c'est vraiment le courant dont se revendique Jodorowsky, mais quand tu dis qu'on a une perte parfois de la cohérence, bah, je suis pas vraiment d'accord, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait une énorme unité dans ce film, et évidemment il y a des choses un peu surréalistes qui tendent parfois vers l'absurde, mais globalement j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'absurde complet et une véritable cohérence, une véritable unité artistique du film.
C'est même pas contradictoire de dire qu'il y a de l'unité dans la fragmentation visuelle, dans la fragmentation de l'histoire, de la narration.
Après on a quand même un fil directeur fort, et chacun en fait de ces morceaux sont bien rattachés entre eux, il n'y a pas des coupures.
C'est ça. Ce que je voulais dire par là, c'est par exemple, il y a une liberté artistique prise avec le personnage de la mère de Jodorowsky, dont je vais pas gâcher le plaisir de vous qui irez voir ce film, mais il y a une liberté artistique qui nous étonne énormément la première fois qu'on le voit, mais cette liberté elle est conservée, c'est-à-dire que la mère a cette particularité, elle la conserve du début à la fin du film.
Oui, et c'est quelque chose, une autre forme d'unité qui est assez saisissante dans ce film, c'est l'unité entre l'esthétique et le propos du film. C'est-à-dire que vraiment, il applique l'un à l'autre et l'autre à l'un. L'esthétique et le propos se fondent. On ne sait plus trop qu'est-ce qui relève du choix artistique ou du choix scénaristique. Et il y a cette espèce de mélange qui vraiment surprend. Le spectateur le surprend et le prend aussi d'une certaine façon, l'emporte avec elle. Et oui, alors cette esthétique complètement carnavalesque alliée à un propos tout à fait surréaliste se retrouve dans une tonne d'éléments. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les décors et les objets. C'est extrêmement fascinant, cette sensualité des objets qu'il peut y avoir dans ce film, qui sont presque filmés avec plus de sensualité que les personnes d'ailleurs. Et la façon dont les décors se construisent et se déconstruisent avec un dispositif qui est assumé en tant que dispositif artistique et qui du coup n'apparaît même pas artificiel parce qu'il est assumé en tant qu'artifice.
Oui, la sensualité, c'est quelque chose que Rodolowski rend vraiment présent dans toutes ses œuvres, et souvent il se limite pas à parler de sensualité, de sexualité entre personnes, entre personnages, mais vraiment il le fait rejaillir de partout dans son analyse des symboles, dans sa construction, bah tu l'as dit, scénique sur un film comme ça, dans le décor, dans les objets, mais aussi dans tous les symboles dont il enrichit sa mise en scène. Bah, ces symboles aussi renvoient à la sensualité, à la sexualité parfois.
Je trouve ça super intéressant le terme que tu as utilisé de personnage, plus que de personne, parce que c'est comme ça que j'ai perçu l'œuvre, ce film. Il y a des personnages devant nous, vraiment, des personnages de théâtre, de cirque, on est dans cette atmosphère tout à fait artistique, totalement délirante d'un Rodolowski qui réinvente sa vie. Et pour la sensualité, j'ai beaucoup aimé justement ce jeu avec les corps et pas des corps qui rentrent dans des canons de beauté, comme on a l'habitude d'en voir.
Oui, on a...
J'ai trouvé ça très intéressant comme matière artistique finalement à utiliser.
Et c'est ça, énormément de scènes nues, parfois des scènes de sexe qui montrent des personnes tout à fait normales, parfois même repoussantes, pas repoussantes. En fait, laide, mais pas repoussante.
Et justement, en fait, ça participe un petit peu de toute la démarche du film aussi, de considérer ces choses de la réalité qui sont laides, repoussantes, on va peut-être pas débattre, de cette espèce de guérison du réel que Rodorowski essaie d'entreprendre avec tout ce film, parce que c'est une façon de se réconcilier avec sa jeunesse que de la réinventer, que de la fantasmer.
C'est
et la scène finale, voilà. À ce titre, cette scène de réconciliation avec la figure du père, de réconciliation du jeune Rodorowski par le vieux Rodorowski.
Oui.
Et cette espèce de... Oui, toute cette esthétique de la guérison et du surpassement d'un certain nombre de choses. Je pense à ce manchot qui ne peut pas caresser sa femme et qui, dans une scène très très belle, demande à la foule de la caresser pour lui. Il y a un certain nombre d'éléments dans ce film qui participent de cette esthétique. Et vraiment, il y a quelque chose comme ça qui traverse tout le film, d'essayer de montrer des choses pas forcément belles et d'en faire naître la poésie.
Alors, c'est quand même, comment dire, c'est vrai qu'il y a, on peut déceler toute la poétique, toute la poésie de Rodolowski dans ce film, mais ce qui m'a quand même un peu choquée, c'est cette mégalomanie assez présente et assez pesante par moments, de tout le temps, moi, je suis au centre de ma propre vie et je limite... J'aide tout ce qui m'entoure. Par exemple, ce qui m'a beaucoup choquée, finalement, c'est quand cette jeune femme tente de se suicider au milieu du film, et que Rodolowski, dans sa démarche artistique, a juste voulu se montrer en tant que sauveur, et ne pas appuyer sur la détresse de cette jeune femme. Alors que c'était le propos, et c'est ce qui m'intéressait.
Mais Oui, et cela dit, ça, enfin, c'est quand même un film sur lui-même, où justement, il se réinvente, il se fantasme, et c'est aussi fait avec beaucoup d'autodérision. Alors, en l'occurrence, la scène dont tu parles est une scène qu'il a vraiment vécue de cette façon-là, qui s'est passée exactement comme ça. Mais je pense que cette mégalomanie complète fait partie, entre guillemets, du contrat avec le spectateur de « pendant 2 heures, maintenant, je vais jouer avec moi-même et avec toi, spectateur ».
Alors justement, cette histoire de mégalomanie, j'y ai pas mal pensé pendant le film, parce que le genre autobiographique, que ça soit à l'écrit ou au cinéma, souvent il me gêne à cause de ça. Et là, il m'a très peu gêné, sauf à certains moments, en particulier ce moment-là, c'est flagrant, parce que donc ensuite il y a une scène de tromperie, etc., où Rodolowski ne se remet absolument pas en question à aucun moment. Ni lui, enfin voilà, ni lui-même en tant que jeune, ni même le, c'est pas une de ces scènes qui pourtant parsème le film, où le vieux Rodolowski vient voir le jeune et lui dit là t'as merdé, là pas du tout, c'est complètement assumé.
Cette mais... idée d'être toujours dans son bon droit.
Voilà, donc ça m'a choqué à certaines reprises, mais globalement j'ai été moins choqué qu'habitude, enfin moins gêné. Par cette mégalomanie et cette auto-congratulation permanente qu'il y a parfois de manière beaucoup plus présente dans des autobiographies.
En fait, c'est plus même que montrer sa vie. Il essaye de montrer ce qu'il avait dans sa tête à ce moment, et donc c'est vraiment... Il n'y a vraiment que lui et les autres personnages gravitent autour, comme dans un rêve en fait. Oui. On ne sait même pas s'ils sont vraiment réels.
Il y a cette scène du cirque où il se fait porter nu par une foule en délire et où ça relève complètement d'un fantasme dérisoire où il se moque de lui-même autant qu'il s'exalte de ce souvenir sans doute complètement faux. Et alors, autre chose, pour passer un petit peu du coq à l'âne, qui est quand même très intéressant dans ce film et dans sa construction, et qui est plus central que ce qu'on pourrait imaginer, c'est la place du père. La place du père et sa mise en perspective avec la place de la mère. La place du père qui est horriblement compliquée psychanalytiquement. Il faut savoir qu'il a fait jouer le rôle du père à son fils aîné et le rôle du fils à son fils cadet.
Voilà, on avait un doute sur qui était...
Donc vraiment, ça, c'est d'une complexité assez incroyable. À peu près toute la famille a travaillé sur le film aussi. Et puis, alors, il y a cette mère qui est jouée par la même actrice que l'amante. Il y a ce père que l'on veut tuer en tombant l'arbre généalogique, comme c'est clairement assumé. Et je trouve ça assez fascinant.
Mais la famille dans ce film, et sûrement dans la véritable vie de Rodolowski, c'est quelque chose de complètement surréaliste. Je veux dire, il y a trésor de psychanalyse là à faire.
En fait, il a vraiment refait sa jeunesse avec les gens qu'il avait sous la main à ce moment-là, donc sa famille à ce moment-là. Et c'est assez bizarre.
Oui, mais même la description des personnages de sa famille son arbre généalogique, c'est vraiment quelque chose de...
Beaucoup d'humour dans cette famille, involontaire.
Oui. Sûrement. Oui, oui. Mais les scènes les plus drôles sont... Mais oui. Les scènes du gâteau à la fraise, excusez-moi.
Oui, à côté de ça, des choses assez gênantes. Quand deux scènes de sexe avec la même actrice, une fois en tant que mère, une fois en tant qu'amante, sont juxtaposées, tout de suite, ça pose des questions assez...
Moi, ça m'a posé aucune question, parce que c'est au générique que j'ai découvert que c'était la même actrice.
Moi, c'est maintenant que je l'apprends, en fait. Donc, c'est vraiment bizarre.
Je me sens beaucoup mieux.
D'accord. Eh bien, un film intéressant à bien des égards, du coup. Poesia sin fin, d'Alejandro Rodorowski, qui n'est sans doute plus en salle pour très très longtemps. Mais vous aurez encore l'occasion de le voir, et je vous conseille vivement d'y aller. Et c'est reparti pour notre petit tour d'horizon de l'actualité cinématographique. Et cette semaine, nous vous proposons d'aller voir Mal de Pierre de Nicole Garcia, où Marion Cotillard est Gabrielle, qui grandit dans la petite bourgeoisie agricole en Provence et refuse le mariage dans l'espoir de découvrir un jour une passion absolue et presque mystique. Malgré tout, sa famille commence à la prendre pour folle, la marie avec un saisonnier dans l'espoir de faire d'elle une femme au foyer. Et c'est lors d'un séjour dans un sanatorium dans les Alpes qu'elle rencontre André, lieutenant blessé en Indochine, joué par Louis Garrel. Alors, le scénario n'est pas neuf et pourrait paraître assez éculé même, mais le film est porté par la réalisatrice Nicole Garcia et surtout par les acteurs et en particulier par Marion Cotillard, dont tout le monde dit qu'elle signe là l'un de ses plus grands rôles, à voir donc. Je continue avec Ma vie de courgette de Claude Barras, petit récit initiatique qui suit Courgette, garçon atterrissant dans un orphelinat après la mort de sa mère alcoolique. Et il y rencontre de nouveaux amis au destin souvent tragique. Et puis cette fille, Camille, qui l'intrigue. Enfin bref, un dessin animé très haut en couleur, au sens propre comme au sens figuré, qui est reparti du Festival d'Annecy avec le Grand Prix. Et je vous renvoie vers sa très très belle bande-annonce qui ne manquera pas de vous donner envie. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Nicolas, Aurore et Hugo. À très bientôt dans les salles obscures.